Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. De Vichy à la guerre d'Algérie, en passant par mai 68, il a documenté les violences policières pour interroger la répression légale lorsqu'elle est appliquée au nom de la République. Clara Menet et Nathalie Salle nous racontent aujourd'hui Maurice Rachfus ou les failles de l'ordre public en démocratie.
Avant de commencer, j'aimerais qu'on rende un hommage à un grand homme, Maurice Rachfus, le seul homme en France qui a fait le recensement des victimes de violences policières depuis mai 68. Il est décédé samedi dernier à 92 ans. Cet homme nous a inspirés. C'est un modèle, c'est un exemple. Et donc, je vais donner la parole à son fils pour un petit hommage.
Chers amis, chères familles, chers camarades, Maurice avait le sens de la synthèse et de la formule. Il a écrit ces trois phrases concernant la possibilité pour n'importe quelle personne habitant ce pays de croiser le chemin de policiers peu enclins à engager le dialogue. Je le cite. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute.
Maurice Ploqui, dit Rachfus, 1928-2020. Historien autonome. Bibliothèque Musée, La Contemporaine, Nanterre.
Le quatrième étage, c'est l'étage de la salle de travail.
Franck Véron, conservateur.
Ça fait combien de temps déjà que vous avez récolté toutes les pièces de Maurice et à quel stade vous êtes de leur traitement ?
En fait, à plusieurs reprises, je suis allé travailler dans son appartement avec Marc Ploqui, son fils, et l'idée était de reconditionner les archives dans des dossiers de conservation au fur et à mesure qu'on les sortait du bureau. Donc on a fait ça, on les a mises donc sur place dans des boîtes de conservation qu'on a finalement ramenées à la Contemporaine, je pense au printemps 2021, c'est-à-dire grosso modo un an après le décès de Maurice Rachfus.
Mais donc là, ça représente quoi, à peu près, si vous pouvez nous décrire
Il y a 84 boîtes, et les boîtes font soit 8 cm, soit 10 cm. On va dire 10, ce sera plus facile pour compter. Donc 84 boîtes, c'est quelque chose autour de 8 mètres linéaires, ce qui fait un bon fond d'archives privées. C'est un fond important. Et la boîte 63 était assez intéressante. Le hasard a bien fait les choses quand on l'a sortie. C'est que dans cette boîte, on trouve vraiment des choses qui vont dans différentes sections du fond. Et en matière d'archives privées, les deux règles principales, c'est de conserver l'intégrité du fond et aussi son plan de classement d'origine. Et ce qui est frappant, en fait, dans ce dossier, c'est qu'il y a à la fois des pièces originales d'époque, vraiment les archives familiales, et aussi des photocopies d'archives publiques qui montrent qu'il a travaillé sur cette histoire plus tard. Pour des raisons soit personnelles, soit historiques, il est allé dans des centres d'archives qui documentaient l'histoire familiale.
Marc Ploqui, vous êtes le fils de Maurice Rachfus.
Là, c'est vraiment toute une vie d'une famille qui se dessine à travers ces pièces récoltées et conservées.
Oui, c'est incroyable qu'il ait conservé tout ça. Mais... Là, c'est l'extrait de naissance. Donc le 9 avril 1928, une heure, est né 17 rue Dieu, ça ne s'invente pas, Maurice, du sexe masculin, de Nouchem Ploqui. Ah oui, c'est le père qui déclare, oui. Et de Rivka Rachfus. Voilà.
Rachfus, c'est mon nom de plume, mais c'est le nom de ma mère.
Maurice Rachfus.
Quand j'ai commencé à publier mes bouquins, c'était en 80, c'était la période de montée de la xénophobie. Donc j'ai décidé de prendre un nom visiblement plus métèque que le mien. Et j'ai rien trouvé de mieux que celui de ma mère.
Zimmer geht der Regen, Winter geht der Schnee.
Une photo un peu coupée de mon grand-père et de ma grand-mère, qui doit être une photo remontant certainement à la Pologne, je pense, une photo bien avant 24-25. Il n'y a pas de date, mais ils sont tous les deux très beaux et très jeunes. Pareil, je ressemble à mon grand-père. Mes grands-parents fuyaient plusieurs choses. D'une part, l'antisémitisme, les pogroms, enfin, l'atmosphère extrêmement lourde à cette époque-là. Et puis, ils fuyaient aussi autre chose. Ils fuyaient également le milieu familial très religieux, en tout cas pour mon grand-père. Je pense qu'ils étaient athées et qu'ils ont certainement fait ce qu'il fallait faire au sein de la famille pour être tranquille. Mais pour être encore plus tranquille, le mieux, c'était plusieurs milliers de kilomètres pour vraiment pouvoir vivre comme ils l'entendaient.
Ben, mon père, c'était...
Maurice Rachefus.
En Pologne, il avait été enseignant. Il enseignait le russe à Varsovie. Plus tard, il enseignera l'hébreu à Vienne, dans un lycée. Et quand il est arrivé en France, eh bien, il était clandestin au début, travailleur clandestin. Et puis il a été régularisé. Et puis il a travaillé dans la maroquinerie. Ensuite, il a travaillé chez Renault dans un atelier sans doute innommable, avec des manœuvres qui faisaient un boulot de con. Ils ont aussitôt commencé à vendre des chaussettes sur le marché à Aubervilliers. Donc c'était un boulot de pauvre, avec un commerce destiné avant à des plus pauvres que soi. Il fallait vivre, il fallait survivre, et ils vivaient tous les deux pour les enfants essentiellement.
Ils ont déménagé avec mes grands-parents et ma tante à Vincennes, juste à côté de Paris. Et donc c'est une enfance qui s'est déroulée dans un tout petit logement, 27 mètres carrés, ils étaient quatre dans ce petit logement. Je le connais bien puisque moi je l'ai habité jusqu'à l'âge de 8 ans. Il y a pas mal de gens de la famille, d'amis qui défilaient dans le petit appartement. Il évoquait entre autres le souvenir de ceux qui étaient partis en Espagne et qui s'étaient engagés dans les brigades internationales. Donc il y avait une politisation dans cette famille. Donc ça amenait effectivement à des échanges, à des discussions. Je pense qu'à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils s'intéressaient beaucoup à ce qui pouvait se passer. À 8 ans, il a vu avec ses parents, mes grands-parents, les grandes manifestations du Front Populaire, par exemple. Alors ça, c'est la ville d'Aubervilliers, c'est une fiche des marchés, une fiche de contrôle qui indique que le commerçant Ploki, de nationalité polonaise, a le droit à une superficie concédée de 2 mètres, voilà, que la date de concession d'emplacement date de 1926, et en observation un peu plus bas, abandon 1940, ouais. Plus le droit d'exercer.
Il y a dans le même temps l'obligation de se déclarer comme juif, ce qui est une ordonnance des autorités d'occupation allemandes. Et 3 jours plus tard, ça c'est le 29 septembre, l'obligation de se déclarer, et 3 jours plus tard, il y a une ordonnance de Vichy portant création d'un statut des juifs de France, qui est une longue suite d'interdits professionnels surtout.
Loi portant sur statut des juifs. Article 1er. Et regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Article 2.
L'accès à partir du mois de mars 1941, le gouvernement de Vichy va créer un commissariat général aux questions juives et puis une police aux questions juives.
Il faut bien entendu évoquer Xavier Vallat, qui était le patron du commissariat général aux questions juives, donc organisme antisémite s'il en était, qui précisément a organisé la spoliation et a recruté des centaines d'administrateurs ou pseudo-administrateurs qui se sont beaucoup nourris sur la bête. Là, on a une note du directeur général de l'organisation économique, hein, comme ça que ça s'appelait à l'époque. L'entreprise juive Ploki 32 avenue de la Villa à Vincennes étant homologué et réglé, j'ai l'honneur de vous faire remettre sous ce pli le compte-rendu de fin de gestion, mon ordre de mission. C'est spoliation de la misère, hein, puisque la plupart du temps, qu'est-ce qui était embarqué par l'administrateur ? C'était une machine à coudre, c'était quelques outils, des stocks, enfin c'est... Pour l'essentiel, c'est ça, la spoliation. Après, on parle beaucoup de la spoliation pour les œuvres d'art, mais c'est, je dirais, c'est vraiment le haut du panier, l'essentiel. Les milliers et les milliers de spoliations ont concerné des gens comme mes grands-parents. Ouais.
La grande rafle de masse qui va intervenir le 16 juillet 1942 va intervenir donc 8 jours. Après l'interdiction de paraître dans les lieux publics et 5 semaines après l'obligation de porter l'étoile jaune. Voilà, c'est dans ces circonstances qu'a lieu la rafle du 16 juillet 1942. Et ce jour-là, il y aura 13 152 arrestations, dont 4 050 enfants.
Pensez-vous qu'ils nous emmènent ?
J'en sais rien.
Parce que le bruit courait qu'ils veulent nous remettre aux Boches, nous envoyer en Allemagne. Mais ce n'est pas possible. La police française ne fait jamais ça.
Dans la nuit, du 15 juillet au 16, il faisait une chaleur étouffante. Et je me souviens avoir entendu mon père se lever, la fenêtre était ouverte, et puis dire encore une nuit de passer.
Tout le monde était dans l'attente, tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. En plus, les oncles avaient été arrêtés avec la rafle du billet vert au mois de mai précédent. Donc on était déjà dans une atmosphère extrêmement lourde de ce point de vue-là. Ils ont été réveillés avec des coups sur la porte à 5h du matin, il faisait très chaud. Il le raconte dans un livre qui s'appelle « Quand j'étais juif », il le reprend également dans un autre livre qui s'intitule « Jeudi noir ». Donc ils ouvrent la porte à 5h du matin et ils tombent sur leur voisin, flic du commissariat de Vincennes, qui leur demande, sans autre forme de procès, de faire très très rapidement leur valise et de les suivre. Voisin qu'ils connaissaient depuis plusieurs années, qui était leur voisin quasiment enfin à 10 mètres sur le même palier.
Parmi les gens qui arrêtaient...
Jenny Plocky, sœur de Maurice Rachefousse.
Il y avait des flics qui étaient des ordures absolues et d'autres pas. Par exemple, quand ma tante a été arrêtée le 7 juillet, elle avait un petit garçon de 8 ans. Le flic ne l'a pas pris, il l'a donné à la concierge. Quand on est venu nous arrêter, nous, le flic qui nous connaissait bien a dit « tout le monde vient », alors que ni moi ni mon frère n'étions sur la liste.
C'était vraiment des aboiements.
Maurice Rachefousse.
Ouvrez police, 5 minutes pour vous préparer, 5 kilos de bagages par personne. Et puis vite. Et c'était, ça revenait de manière lancinante, dépêchez-vous. Et c'est drôle parce qu'il y avait une sorte de comportement retardataire de ma mère qui tournait d'une pièce à l'autre pour trouver une raison, pour ne pas partir, en disant « mais les enfants ils sont français, vous ne pouvez pas les arrêter ». Ça a dû durer une dizaine de minutes, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Le temps de s'habiller à la hâte. Et ma mère nous avait mis des vêtements chauds, donc on était en plein été. Il faisait lourd. Ma mère nous habillait chaudement. Comme s'il y avait le pressentiment qu'il fallait qu'on ait des vêtements solides qui peuvent durer. Et bon, il y avait bon, tout ça à la fois, l'angoisse, la peur, la peur de ce qui allait se passer le lendemain, qu'est-ce qu'on allait faire de nous, où on allait. C'est indéfinissable, on ne peut pas restituer ça comme ça, c'était comme si on avait cessé de vivre.
Ils ont tout de suite été emmenés, donc tous les quatre, mes grands-parents, mon père et ma tante, dans un lieu de regroupement, à quelques dizaines de mètres de là où ils habitaient. Un pavillon qui avait été utilisé là, pour ce premier regroupement, et ils sont restés là une douzaine d'heures à peu près, avec un certain nombre d'éléments contradictoires, c'est-à-dire que des fois on leur disait que les enfants devaient rester avec les parents, parfois on leur disait qu'au contraire les enfants de moins de 16 ans pouvaient partir, ou de plus de 16 ans, enfin tout ça était très très brumeux, et au bout de la journée le commissaire a indiqué que les enfants pouvaient partir.
Ma mère n'a pas hésité un instant, elle nous a dit partez, à ma sœur et à moi. Elle s'est délestée des quelques billets de 1000 francs qu'elle avait dans sa poche, de son alliance, d'une bague, puis on est parti. Donc elle avait déjà le sentiment que l'issue serait dramatique. Et que c'est une décision très, très dure à prendre, hein, parce que j'ai des camarades d'école qui étaient dans ce pavillon, dont les mamans ont dit « on ne me séparera pas de mon fils ».
Mes grands-parents ensuite ont été dirigés vers Drancy. Est-ce que c'est le même jour ou le lendemain, on ne sait pas vraiment. Ils sont en fait arrivés à Drancy vraisemblablement le 17 ou le 18 juillet. Et ils en sont repartis par le convoi numéro 11 du 27 juillet 42 en direction d'Auschwitz.
En octobre, il est arrivé par le rebut des PTT, un petit mot griffonné que mon père avait dû glisser par une interstice d'un wagon et qui avait traîné pendant 3 mois au rebut parce que c'était difficilement lisible. Il disait « nous partons vers l'Allemagne ». J'ai retrouvé leur nom sur les listes de départ de Drancy en 1985 et ça m'a fait un coup terrible parce que j'avais en main, pour une fois, un document qui décrivait la réalité de leur sort. Quand j'ai été raflé, j'étais en 5e au collège. Et après la guerre, je ne suis pas retourné. J'avais surtout envie de rien foutre après la guerre. J'avais qu'une idée obsessionnelle, c'était de faire la révolution.
Et les années 50, c'est aussi un peu des années d'errement, en tout cas le début des années 50, où il n'a pas envie de travailler. Il ne veut pas faire son service militaire. Il met des mois à faire en sorte qu'on ne lui impose pas le service militaire. Il va se retrouver pendant plusieurs mois très malade à l'hôpital Bégin. C'est-à-dire que, en fait, il avait décidé d'être malade pour ne pas faire son service. Jusqu'à ce qu'il soit réformé.
Ce qui est frappant quand même aussi, même si les dossiers sont plus ou moins riches, c'est le fait que les archives portent sur une période quand même très longue, quoi. Et ça permet vraiment de témoigner de l'ensemble de son parcours politique, mais aussi, on va dire, personnel, intellectuel, où il y a vraiment des choses. Par exemple, sur les années 40-50, sa proximité avec les lettristes, il y a, hors de tout ce dont on parle en général à son propos, même s'il le raconte dans des ouvrages autobiographiques, il y a des traces, par exemple, de poèmes ou de poésie qu'il a écrit. Des traces de collages, par exemple, d'activités, on va dire, un petit peu politico-artistiques. Et ça, c'est intéressant aussi qu'il ait conservé ces choses-là.
Tentative pour un épuisement de la rime en hic. Par Lévon Aradian, Cheval Bertrand, Claudie et Maurice Ploqui. 25 mars 1952. Les pompiers de la 4e République ont construit le canal du Mozambique, à cheval sur un pont nostalgique, car c'est ça le hic. En caressant des biques. Car ils respectaient la loi salique malgré leur œil lubrique. Les pompiers se nourrissent de briques jusqu'à faire couic, telles de grosses bourriques tellement ils craignaient le maléfique orgueil des tropiques qui se sustentent à coups de triques.
J'ai adhéré aux Jeunesses communistes le 1er septembre 1944, donc il y a 50 ans.
Maurice Rachefosse.
2 ans après, j'ai été exclu comme provocateur. Je me suis retrouvé à la 4e internationale, que j'ai quitté 2 ans plus tard parce que le modèle bolchevique ne me convenait pas davantage chez les trotskistes, qui étaient des gens bien sympathiques, que les staliniens, qui étaient vraiment des gens odieux.
À partir de 53 ou 54, il va être permanent aux auberges de jeunesse. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va le remettre un petit peu en selle, c'est-à-dire à la fois lui offrir un revenu, même si c'est pas un salaire mirobolant, mais en tout cas, l'occasion de se retrouver dans un tissu social avec une forme de responsabilité. Et puis, c'est vrai que à partir de 55 et les départs du contingent en Algérie, les auberges de jeunesse vont jouer un rôle aussi dans cette résistance au départ du contingent.
Une enfance laïque et républicaine. Cette guerre d'Algérie, qui s'annonçait longue et douloureuse, me renvoyait à mon enfance. J'avais fait partie des premiers opposants prématurément, avec toute la fougue militante d'un rescapé de l'horrible génocide. Comme pour de nombreux rejetons d'immigrés, Ce conflit me rappelait trop mes propres cauchemars pour que je puisse supporter de voir mon pays s'y lancer en prédateur d'un peuple qui ne revendiquait que sa liberté. Je venais de me marier et nous avions un bébé de quelques mois. Malgré cette situation, le militant se réveillait comme l'animal qui sort de son terrier après un long hiver.
Ils vont se marier, ils vont avoir deux enfants, ma sœur Michèle en 55 et moi en 57. Donc il y a aussi une forme d'obligation, il va faire plein de petits métiers. Il va être emballeur, il va travailler dans une entreprise de quincaillerie, jusqu'à ce qu'il soit embauché dans un groupe de presse où il va entrer comme correcteur en 1958-59. Et de là, effectivement, il va démarrer une carrière assez longue de journaliste. Et il va se présenter ensuite sur une liste municipale en 65 à Vincennes. La liste est battue. Et en même temps, il recherchait un nouveau logement, puisque à 4 dans 27 mètres carrés sans salle de bain, c'était un petit peu compliqué. Et c'est le moment où on déménage à Fontenay-Rose, dans la banlieue sud.
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose?
J'ai toujours travaillé comme un fou et j'ai un peu abandonné le militantisme. Et mai 68, c'est le réveil. Et en mai 68, j'ai rajeuni de 20 ans. Et puis, j'ai pas vieilli depuis.
Tu as passé des chants révolutionnaires à...
Ah bah sur mon balcon, à Fontenay-Rose, il y avait un tourne-disque sur le balcon. Il y avait un drapeau rouge qui pendouillait. Et puis, toute la journée, ça moulinait des chants révolutionnaires depuis le balcon. Et alors, il y avait les filles de la cité universitaire... En face, quand elle passait là par là, elle disait, tiens, c'est l'enragé qui habite là-haut.
Et dès la rentrée 68, il a commencé systématiquement à dépouiller la presse, en tout cas celle qu'il avait sous la main, et en particulier tout ce qui concernait la répression.
Donc c'est venu du fait de la violence policière qui alors, s'est montrée en 68
ou... Oui, je pense qu'il y a eu plein de choses. D'une part, à la fois la violence des CRS, des forces de police, bien sûr, et puis surtout la possibilité de la révolte, et au-delà de la révolte, d'un processus révolutionnaire. C'est ça qu'il... Bon, il avait un peu mis son mouchoir dessus, et puis 68, c'est l'espoir que des choses puissent à nouveau avoir lieu.
Donc il se remet en action.
Voilà, simplement, il s'encarte nulle part. Il y a la création d'un comité d'action qui s'appelle Les Enragés à Fontenay-Rose, qui va ensuite devenir un petit bulletin qui va s'appeler Action Socialiste Banlieue Sud, qui a fait quasiment tout seul pendant 5-6 ans. Toute la famille était mobilisée pour la sortie du bulletin, en gros, une fois par mois. Oui.
Votre mère aussi ?
5 ans, 6 ans, oui, bien sûr. Ma chambre était occupée pendant au moins 2 jours, le temps que voilà, ça sentait bien l'encre, les stencils et l'encre de Ronéo. On faisait le tirage, on faisait le pliage, la mise sous enveloppe.
Vous l'aidiez ?
Oui, bien sûr. Et voilà, tout le monde me mettait la main à la pâte pour que tout soit prêt, que les, je sais pas, 800 ou 900 exemplaires soient mis sous enveloppe et envoyés. Il y avait un fichier qu'il avait patiemment réalisé.
Donc nous allons entrer dans le magasin de conservation des fonds non traités ou en attente de traitement.
Les pièces de Maurice Rachefus sont
au fond. Sont au fond. Alors ce qui reste ici pour l'instant, ce sont exclusivement les fichiers que je vais vous montrer. Les fichiers, c'est pour ainsi dire le cœur du travail documentaire de Maurice Rachefus. C'est souvent ce qu'on connaît de lui. En fait, ce sont des fichiers de dépouillement de la presse qu'il a alimenté sur différents sujets de 1968 jusqu'aux années 2010. Alors, on a décidé de les conserver. Finalement, ces fichiers, ce sont des fichiers papier, hein, conservés dans des boîtes à fichiers qu'il achetait consciencieusement chez Gibert. C'était très très bien rangé dans son appartement. Et en fait, là, on est dans quelque chose qui serait l'ancêtre physique d'une base de données informatique aujourd'hui de traitement des violences policières. Donc en fait, quotidiennement, jour après jour, sur les sujets qui l'intéressaient, il lisait la presse et il découpait des articles qu'il collait patiemment sur des fiches Bristol. Et effectivement, c'est la masse d'informations qui fait sens aujourd'hui. Et là, les boîtes... Le contenu est intéressant en termes de documentation, mais leur présence physique, 73 boîtes les unes sur les autres, comme c'était un peu sur ces étagères, je trouve que ça a du sens quand même. C'est le témoignage matériel d'un engagement pérenne. Moi, c'est ce qui me frappe. On va essayer la boîte 1. Police. Donc Police, 1968. Donc là, on est vraiment au début. Ben voilà, on peut lire ce qu'est la première fiche. Le Monde, mardi 10 septembre 68, la réforme de la police, la direction de la sécurité publique regroupe CRS et corps urbain.
Et à partir du moment où il est parti à la retraite, là, il s'est vraiment engagé dans ses premières recherches, entre autres au Centre de documentation juif contemporain. Et là, il a commencé à travailler sur le GIF, il a commencé à travailler sur la répression, sur le judéocide. Et puis après, sont venues toutes les questions liées aussi à la répression à travers l'appareil policier. Enfin, il a fait plein d'allers-retours. À partir du moment où il a commencé à écrire, il a fait plein d'allers-retours entre l'histoire et le présent. C'est vrai que toutes ces fiches ont fini par lui servir à un moment ou à un autre. Quand il a commencé à écrire sur la police, que ce soit ses livres sur la police et la peine de mort, sur le vocabulaire policier, son livre sur la répression, sous les pavés, la répression entre 68 et 74, tous ces livres-là ont été bâtis, bien sûr, avec ses propres connaissances, mais aussi grâce à tout ce fonds d'archives qui s'était lui-même créé.
Pas de vérité, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Le combat de Maurice continue.
Ludivine Bantini, vous êtes historienne, vous êtes professeure d'histoire. Comment avez-vous connu le travail de Maurice Rachfus ?
Alors, je l'ai d'abord connu par ses travaux sur la police. J'avais été très marquée en librairie, tout simplement, de voir un titre qui m'avait paru très provocateur et qui avait attiré mon attention. Je n'aime pas la police de mon pays. Et donc, comme je m'intéresse aux enjeux de violence sociale, de violence policière, voilà, ça m'a intéressée qu'il réfléchisse à la police en se disant que bon, c'est difficile d'avoir une police vraiment républicaine. Voilà, donc c'est la première approche qui a été pour moi la découverte de Maurice Rachfus via voilà son engagement et son travail sur la police. Et puis ensuite, je me suis intéressée à tous ces développements sur 1968. Et ça m'avait frappé de voir qu'il avait vu déjà beaucoup d'archives, beaucoup de documents, alors notamment des archives policières, mais il s'intéressait beaucoup aux grèves ouvrières, en fait. Et c'était d'autant plus intéressant que, voilà, pendant assez longtemps, dans la recherche sur 68, on avait beaucoup négligé la dimension du travail. Paradoxalement, parce que c'est quand même une grève générale, mais les quelques 7,5 millions de travailleurs en grève, on les avait un peu négligés au profit des étudiants, d'une dimension culturelle, etc. Et donc pour moi, c'était la deuxième porte d'entrée dans le travail de Maurice Rachfus. Et la troisième, ça a été plutôt la guerre d'Algérie et les années qui avaient précédé la guerre d'Algérie, puisque moi, j'avais consacré ma thèse à cette période-là. Et donc de découvrir que ça avait été un point vraiment de grand intérêt pour Maurice Rachfus, et encore une fois en lien avec son engagement sur les violences policières, mais aussi sur l'anticolonialisme. Voilà, c'était le troisième axe pour moi.
Là, en l'occurrence, c'est une boîte en bois qui porte le titre, alors c'est encore l'étiquette d'origine, grève au pluriel numéro 5. Ça veut dire que sur la question des grèves, qui était un sujet qui suivait, il y avait déjà au moins 4 boîtes précédemment. Et puis, on voit que la boîte est bien remplie avec des petites fiches qui sont toutes composées de la même manière, des fiches Bristol, avec en haut l'indication de l'origine de la coupure de presse qui se trouve sur la fiche. Donc là, on a ouvert un fichier au hasard, mais on est dans une partie de ce fichier grève, qui porte sur la période, donc là la première fiche est de 78, la dernière est de 79, donc là on voit que sur la question des grèves en 78-19, déjà en voyant le fichier on voit qu'il y avait de la matière et de la production, et on voit aussi quand on regarde comment les coupures de presse sont collées sur les fiches, le travail que ça représente quand même. J'en ai pris une au hasard, donc on est toujours dans le fichier grève 5, c'est une coupure de presse du Monde, le 8 septembre 1978, regain de tension dans certaines usines vosgiennes de l'ex-groupe Boussac. Alors, le Monde aujourd'hui, c'est numérisé, on pourrait trouver ces informations-là, mais ce qui est intéressant, néanmoins, je trouve, c'est qu'il a souvent découpé des petites brèves, donc on a une espèce de chronique par en bas aussi, des grèves en 78. Là, en même temps que je vous parle, je sors une autre fiche, c'est Libération 14 septembre, Oise, 5 jours de grève dans une tuilerie. Trois fiches plus loin, c'est une petite brève, conflit, occupation d'une filature dans les Vosges, etc. puis garde des traces, y compris des événements très locaux, en fait. Et c'est, là encore, c'est la masse qui fait sens.
Oui, il y a une sorte d'éditorialisation, en fait, et finalement, des faits divers apparaissent comme un fait social avec ce travail de regroupement. Et...
Oui, exactement. Là où on pourrait voir que des faits divers, notamment sur les violences policières, une succession de faits divers, le fait de les regrouper, les accumuler, documenter ça sur le long terme, effectivement, ça le constitue en fait social ou fait politique, effectivement, qu'il s'agira pour lui de dénoncer.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne.
Alors mai 68, bon, ça a duré bien au-delà. Parce qu'il y a eu la répression qui a suivi, il y a eu, à partir de 1974, au lieu de pourchasser les gauchistes, entre guillemets, il y a un changement d'objectif, commence la chasse aux étrangers. Donc la fin des années 70-80 est déjà lourde de menaces envers les étrangers sans papier, et personnellement, bah, il se trouve, je ne peux pas oublier que mon père a été un étranger sans papier, ça laisse des traces, même si je ne l'ai pas vécu.
Maurice Rachfus, qui a dû survivre en portant l'étoile jaune, n'a jamais oublié. Écrivain engagé à l'extrême gauche, il est l'un des fondateurs de Râle Front.
On doit s'opposer au Front National, parce que demain, s'il y a des rafles contre les Nord-Africains, eh bien la population française sera tellement empoisonnée par l'idéologie du Front National que la population sera aussi indifférente que lorsqu'on a raflé les Juifs en 1942-43.
Moi, je vois cet homme... à côté de moi, dans les réunions de Râle Front, qui parle doucement de violence.
Samia Messaoudi, militante, journaliste, éditrice, engagée aux côtés de Maurice Rachfus au sein du réseau Râle Front, qui s'oppose à la montée du Front National dès 1990.
Moi, je l'ai rencontré, il avait un certain âge, Maurice Rachfus, donc c'était un homme petit, très souriant, avec sa moustache grisonnante, ses cheveux blancs, il marchait doucement. Il avait, voilà, une sérénité à la fois dans son allure, et puis dès qu'il parlait, sans colère, moi j'aimais bien cette douceur, ouais, la douceur qu'il avait à la fois physiquement, et puis dans son combat déterminé quand même.
Une vingtaine de policiers et deux journalistes légèrement blessés, c'est le bilan des incidents qui ont opposé hier soir les forces de l'ordre aux manifestants rassemblés autour du commissariat des Grandes Carrières dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là qu'est mort avant-hier un jeune Zaïrois de 17 ans, tué à bout portant par l'arme de service d'un inspecteur qui l'interrogeait. Hier soir, le président de SOS Racisme, Fodessila, a vigoureusement dénoncé les circonstances de la mort du jeune Nakomi.
Nous nous croyons aux valeurs républicaines, nous nous croyons à la police de la République, mais à une condition, c'est que cette police de la République elle soit là pour protéger les jeunes et qu'elle ne soit pas là pour assassiner des jeunes. Parce qu'il est clair que le fait d'avoir fait une garde à vue en mettant devant ce jeune un pistolet, en lui braquant dessus, et vu dans les conditions dans lesquelles la balle est partie, je pense qu'on ne peut pas parler d'accident. Il est clair que nous ne pourrons pas admettre que ce qui s'est passé ces trois derniers jours puisse continuer.
Le président de SOS Racisme faisait allusion aux deux autres bavures policières de ces derniers jours. En effet, outre le drame du commissariat du 18e, un autre adolescent a été tué dimanche à Chambéry par un policier qui tentait de lui passer les menottes. Et puis hier matin, à Waterloo, près de Lille, un jeune maghrébin à son tour a été grièvement blessé, là encore par un policier.
La mort de ce jeune homme, Makome Mbowole, en avril 93, cela représente aussi un pivot dans la carrière de Maurice Rachfus. Ludivine Bantini, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, ça a été fondamental, ce décès dans un commissariat d'un tout jeune homme, parce que c'était voilà la mort de trop. C'était pas du tout la première. On a pu justement comptabiliser les victimes lors d'interventions policières depuis la fin des années 1970. Et Maurice Rachfus a contribué à cette tragique comptabilité. On estime qu'il y en a environ 700 depuis la fin des années 1970. Donc des morts à l'issue d'interventions policières pas uniquement bien sûr dans le cadre de commissariat, mais là il se trouve que c'était le cas. Et du coup, c'est ce qui a poussé Maurice Rachefus à créer l'Observatoire des libertés publiques et donc de lancer cette brochure, voilà, qui s'appelait Que fait la police, où à partir de coupures de presse qu'il collectait très soigneusement, il rendait compte des bavure, de silence, voilà, il a d'ailleurs écrit un livre avec Jean-Luc Hénaudy qui s'appelle Les silences de la police. Il voulait mettre en lumière ce qui était tu et en particulier ce qui pouvait se passer parfois dans les commissariats.
Manifeste Que fait la police, avril 1994. S'il est un domaine d'information qui n'encombre pas les colonnes des journaux, c'est bien celui concernant les activités de la police, voire de la gendarmerie française. Sauf s'il s'agit de bavures graves, les Français ne sont pas jugés dignes de connaître les harcèlements, au quotidien, qui s'exercent contre toute une frange de la population de ce pays. Un comportement grossier, injurieux, méprisant, provocateur, raciste, brutal et enfin sexiste. C'est tout ce que l'on peut attendre d'un gardien de la paix, dont la mission initiale est d'assurer la protection des personnes et des biens.
Qu'est-ce que c'était le bulletin d'information Que fait la police ?
C'était un bulletin diffusé au départ sous une forme photocopiée, un petit bulletin de 4 pages. Il n'y avait pas d'abonnement, on envoyait des timbres pour le recevoir, qui était une recension mensuelle ou trimestrielle des violences policières ou sécuritaires, on va dire, telles qu'on pouvait en trouver la trace dans la presse. Et donc c'était une espèce de mise en bulletin de ce qu'on pouvait trouver sur les fiches qu'il établissait, avec à chaque fois, quand même, chaque mois, un éditorial signé par Maurice Rachefus autour de cette question des violences policières. C'était loin d'être une publication périodique, professionnelle, telle qu'on peut l'imaginer. Et ça, je trouve quand même aussi que c'est caractéristique de ses activités, le caractère artisanal et engagé d'une manière très très personnelle sur ces sujets.
Et finalement, toujours indépendant, ça lui permettait
exactement,
aussi...
Exactement, exactement, ouais, bien sûr. Oui, c'est aussi le signe d'une indépendance totale. Ouais.
Ici Radio Ralfront, les Français ne parlent pas qu'aux Français.
Voilà, bonjour, vous écoutez donc Fréquence Paris Pluriel, l'émission de Ralfront. Eh bien aujourd'hui, avec nous, Maurice Rachefus est ciné.
Eh bien, bonsoir les auditrices.
Bonsoir les auditeurs.
Vous êtes avec Linda.
Et Hamid, bien sûr.
Sur Radio Beurre.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
Cette émission est consacrée entièrement à Maurice Rachefus, président d'honneur.
Il était aussi président d'honneur de la radio FPP, Fréquence Paris Pluriel. Qu'est-ce que ça dit, ça aussi, d'aller vers des médias un peu dissidents ?
Ben, ce que ça dit, en effet, c'est la dissidence chez lui, c'est-à-dire le refus de s'aligner, le refus du conformisme. Hein, c'était profondément un anticonformiste, Maurice Rachefus. Et surtout, quelqu'un qui était très attaché à la liberté de penser et dès lors de créer des brèches médiatiques par rapport aux médias un peu hégémoniques, dont il estimait que, voilà, il n'était pas toujours très soucieux de rendre compte de la diversité du réel et justement d'une violence, selon lui, structurelle qui traverse la société et notamment l'État. Donc oui, aller dans le sens de médias indépendants, de médias alternatifs, ça lui ressemblait beaucoup parce que il avait vraiment cette volonté toujours de faire émerger des sujets et de faire émerger des équipes vraiment autonomes. La question de l'autonomie, de l'auto-organisation, de l'autogestion était centrale pour lui.
80 apporte cet élan dans les radios libres, et c'est important parce que la parole des sans-voix, elle est passée par là.
Samia Messaoudi.
Elle est passée par là, elle s'est affirmée, elle s'est multipliée au travers les émissions où on donnait la parole aux luttes sociales de l'époque, en 81, aux luttes contre le racisme. En 83, il y a la Grande Marche pour l'égalité contre le racisme, FPP, Radio Beurre, on est partie prenante. Moi, j'ai marché la moitié de la France contre le racisme. Donc ces radios-là sont toujours des moteurs des combats sociaux, des combats d'égalité et de justice, et des combats contre la violence policière. On l'a vu récemment dans d'autres mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ou autres combats qui se mènent aujourd'hui. Et Maurice était évidemment assez porteur de ces combats, toujours de dénoncer la violence policière dans les derniers mouvements sociaux, tant qu'il a pu être à la fois disponible et il a été jusqu'au bout, en fait, à dénoncer ces injustices et ces violences policières. Et ce qui nous a rassemblés, ça a été effectivement ce point de rencontre autour de la violence policière. Ça a été des moments très forts parce qu'il avait écrit avec Jean-Luc Enaudi ce livre sur la violence policière de 42 à 61 qui était très, très marqueur de, pas de comparaison, il n'en était pas question, mais d'une appréciation vraiment forte de cette violence policière.
Durant les sombres années de la guerre d'Algérie, les traqueurs de juifs ne perdaient pas la main en se livrant à la chasse aux Algériens. Cette véritable guerre contre les Bougnoules, conduite dans Paris, eut son point d'orgue le 17 octobre 1961, lorsque sous les ordres du préfet de police Papon, des centaines d'Algériens furent froidement assassinés par des policiers, dont un certain nombre avait certainement officié sous Vichy, au temps des rafles, avec des juifs pour victimes. Combien de ces policiers encore sous le casque ? En mai 1968, s'appliquèrent à matraquer et à gazer férocement des milliers d'étudiants et de contestataires qui proclamaient qu'ils voulaient changer le monde. Le temps a fait son œuvre, et les policiers qui, durant 4 ans, ont mangé sans vergogne le pain de la Gestapo, ont pour la plupart d'entre eux rejoint un monde meilleur. Pourtant, comme il y a de fortes traditions dans la police, il reste toujours une masse de suspects à surveiller, à contrôler, à réprimer si cela s'avère nécessaire. Après les juifs et les communistes, les Algériens et les blousons noirs, après les étudiants et les lycéens, il y avait les jeunes des banlieues et les sans-papiers, les sans-logis et les précaires. Tous ces « sans » menacent une société qui n'aime pas le désordre. Les silences de la police, 1942-1961. Jean-Luc Enaudi et Maurice Rachefos.
Et qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire de ce style, de la plume de Maurice Rachefos, l'auteur ?
Alors d'abord, il écrit beaucoup, c'est-à-dire il publie beaucoup d'ouvrages, et donc il y a une dimension un peu de flux comme ça de l'écriture, de dynamique de l'écriture. C'est il entre vraiment dans le sujet avec une énorme vivacité, avec une force, avec une espèce de puissance. Bon, il avait une puissance de travail quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de colère. En lui, il y avait vraiment beaucoup de colère, beaucoup de rage, mais une rage non dénuée de douceur aussi, de tendresse, enfin d'affection. Tout ce qu'il décrit, par exemple, des enfances et de sa propre enfance sous Vichy, dans la pire des persécutions. Donc il est... Il y a un profond humanisme qui se dégage de son style, de sa plume, et beaucoup de véhémence, parce que, évidemment, le traumatisme qu'il a subi dans l'enfance le rendait soucieux non pas tant de vengeance, hein, c'est pas une question de vengeance ou de revanche, mais soucieux de combat. Voilà. Et cette plume de combat, voilà, mettre la plume dans la plaie, interpeller, en effet, les pouvoirs publics, mais interpeller les citoyens sur ce que font ces pouvoirs publics, ce que font les institutions, et en particulier le bras armé de l'État, c'est quelque chose qui l'a animé mais toute sa vie, mais jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle.
Quel type de rôle ça peut jouer, ça, dans la construction et l'écriture de l'histoire ?
Je pense que c'est toujours stimulant. Voilà, c'est enthousiasmant, même si, encore une fois, les approches et les méthodes diffèrent. Mais ça ouvre des pistes, ça trace des chemins que les historiens, ensuite, peuvent emprunter. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le 14 juillet 1953. Le travail d'historien spécialiste de la police, comme Emmanuel Blanchard, c'est un travail qui a pu creuser, justement, ces pistes qui avaient été défrichées par Maurice Rachefos.
Alors, le livre de Maurice Rachefos, sur le 14 juillet 53, de mémoire, il est publié au début des années 2000, je pense en 2003.
Emmanuel Blanchard, historien.
Un moment où moi-même je travaille sur ces questions-là. C'est-à-dire que je suis moi-même plongé dans ces archives-là. Alors le 14 juillet 1953, il faut rappeler que le 14 juillet était depuis le Front Populaire un jour de commémoration aussi pour le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier français, pour s'inscrire dans une histoire qui soit une histoire française, révolutionnaire, républicaine, a sa propre commémoration du 14 juillet. Il l'a fait l'après-midi, alors que les commémorations officielles ont lieu le matin. Et donc ce sont des manifestations, on va dire familial, bon enfant, très encadré par non pas simplement les syndicats et les partis, c'est une manifestation à l'appel du mouvement de la paix, si ma mémoire est bonne, mais par l'ensemble des associations du mouvement ouvrier. Et depuis Le tournant des années 50, les Algériens indépendantistes, organisés par le Parti du Peuple Algérien, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques de Messali Hadj, se saisissent des cortèges ouvriers et de cette journée pour s'afficher. Ce qui est sûr, c'est que pour les policiers, il était inadmissible que ces Algériens exhibent leur volonté d'indépendance au cœur de la capitale. Et en plus, ces policiers ont, d'une certaine façon, un contentieux, des comptes à régler avec ces Algériens. Pourquoi ils ont des comptes à régler avec ces Algériens? Parce que ces Algériens les ont fait reculer à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il s'agissait de trouver une occasion de venger le fait d'avoir été humiliés, parce qu'ils n'avaient pas réussi à empêcher les rassemblements, parce qu'ils n'arrivaient pas à empêcher les ventes de journaux, parce que certains des leurs avaient été blessés dans les affrontements. Et ça, c'est une mémoire qu'il faut porter. Et donc, il y avait ce contentieux qui ne légitime absolument pas la tuerie. C'est une tuerie, le 14 juillet 1953. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas un maintien de l'ordre violent, c'est pas une dispersion de manifestations qui tourne mal. Ce sont des dizaines de policiers qui ouvrent le feu avec des centaines de munitions qui sont tirées. Il y a des traces de tout cela, y compris dans les archives de police. 7 personnes qui sont tuées, 6 Algériens et un syndicaliste de la CGT, membre du service d'ordre de la manifestation, et des dizaines de blessés. C'est du maintien de l'ordre colonial au cœur de la capitale française. Les faits sont complètement couverts a posteriori. Le meurtre est camouflé en émeute algérienne, mais les affrontements surgissent après le début de l'ouverture du feu.
Le Figaro. Place de la Nation, 2000 Nord-Africains défilant devant l'état-major communiste déclenchent une échauffourée. L'Aurore, 2000 Nord-Africains attaquent sauvagement la police Place de la Nation. Libération, 14 juillet, la police tire, 7 morts.
C'était quel type de source pour vous, cet ouvrage que vous avez préfacé? Quel type de travail, en fait, sur cette période un peu oublié parfois de l'histoire?
Oui, en fait, souvent, Maurice Rachfus, qui n'était pas historien de formation, ça a été beaucoup souligné, voilà, hein, qu'il avait le certificat d'études, et puis bien, bien plus tard, il a entrepris un doctorat de sociologie. Donc c'est vrai que les historiens, disons professionnels, voire académiques, ont beaucoup insisté sur le fait qu'il n'était pas historien. Il n'empêche qu'il a été vraiment pionnier pour plein de sujets, aussi bien la période de Vichy, que plus tard, hein, sur la guerre d'Algérie notamment. Et donc sur 1953, un 14 juillet sanglant, ben voilà, il y avait encore rien sur cet événement tragique. Et en fait, avant de découvrir vraiment le livre, j'ignorais en grande partie cet événement parce que il fait pas partie des chronologies habituelles. Hein. Et ce qui est très intéressant donc dans cet ouvrage, c'est d'une part qu'il a vraiment mis en contexte ce 14 juillet 1953 et donc la répression de la manifestation. Et donc il remettait ça en contexte en montrant que des violences policières contre des Algériens, eh bien, il y en avait eu déjà beaucoup de manière structurelle avant cet événement tragique. Et quant aux sources qu'il a mobilisées, bon, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est sa lecture très exhaustive, hein, très complète de la presse de l'époque. Et donc il fait une analyse vraiment très fine, extrêmement minutieuse de la presse, de tous ordres en fait, hein, de la presse quotidienne nationale, comme de la presse régionale et locale, de la presse engagée de toutes obédiences, de la presse syndicale. Et ça, c'est déjà passionnant dans ce livre, puisqu'il il arrive à montrer à quel point l'événement est complètement métamorphosé, voire vraiment déformé par justement cette approche médiatique.
Et donc le livre, il y a quelques témoignages que je connaissais pas, bien sûr. Donc je le prends comme un recueil de sources, d'une certaine façon, qui vient compléter les sources que j'ai, et je le prends aussi justement avec cette reconnaissance qu'enfin cet événement puisse avoir une petite place, même si le livre va pas avoir énormément d'échos, il va avoir des échos dans les cercles militants. C'est-à-dire que avant ce livre, dans les cercles militants, il y avait très peu de personnes qui connaissaient le 14 juillet 1953. Après ce livre, dans les cercles militants, il y a plus de personnes qui connaissent le 14 juillet 1953. Donc il permet de nourrir une réflexion sur justement les continuités coloniales, les héritages coloniaux, la façon dont les personnes issues de l'Empire français étaient traitées par les institutions françaises et en particulier par la police avant même la guerre d'indépendance algérienne. Donc il est important de ce point de vue-là, mais c'est pas une brique scientifique sur laquelle je viens m'adosser.
Et est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi un peu sur depuis quand finalement ce sont les historiens qui écrivent l'histoire.
Disons que l'institutionnalisation de la discipline et le fait qu'elle devienne un métier avec un savoir-faire spécifique, on peut considérer que ça date du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, avec tout ce qu'on a appelé ensuite l'école méthodique, qui entendait justement faire un travail d'objectivation, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que voilà celui qui prend la plume s'efface dans sa propre subjectivité, hein, s'efface par rapport à ses sources et par rapport aux faits, et donc ne pas dire « je », ne pas s'engager, ne pas laisser entendre ce que l'on pense soi-même. Bon, ça a été quand même, dès le 19e siècle, assez, sinon contesté, du moins discuté, parce qu'il y avait un autre très grand historien, Jules Michelet, au 19e siècle, qui, lui, finalement, a pu inspirer des personnes comme Maurice Rachefus, parce que Michelet était un passionné. Alors, il faisait un très grand travail d'archives, lui aussi extrêmement fructueux. Mais Michelet n'hésitait pas à évoquer justement ses propres révoltes, ses propres indignations devant l'injustice ou la détresse ou la misère sociale. Bon, je ne pense pas que Maurice Rachefus ait cité Jules Michelet, mais au fond, dans l'écriture, dans ce grand enthousiasme de la plume et de l'engagement, il y a des points communs.
Et le fait qu'il n'ait pas de formation classique, qu'est-ce que vous pensez que ça a produit sur sa démarche et son travail ?
Ce qu'il y a, et il l'assumait, c'est qu'il n'arrive pas à se dire qu'on peut être neutre en histoire. Mais à vrai dire, je ne le crois pas non plus. Donc, c'est pour ça que voilà, j'admire le travail de Maurice Rachefus, même si évidemment, voilà, un historien ou une historienne universitaire n'écrirait pas les livres de la façon dont il les a rédigés. Puisque, en fait, il est engagé. Il est toujours engagé. Alors, ça n'empêche en rien le métier qui consiste à comparer les sources, hein, vraiment à documenter toujours ce qu'il avance. Mais par exemple, dans le cas du 14 juillet 1953, ce qu'il n'a pas véritablement fait, c'est aller se plonger vraiment dans les archives policières, dans les archives syndicales ou des partis politiques. Voilà. Il a fait vraiment une étude de presse, mais en soi, c'était déjà extrêmement passionnant pour faire revivre l'événement.
Oh. Quelle barbarie! Tu dors sur le sang? Marqué, tes mains sont sales. Sales de sang. Oh!
Maurice Rachefus, lui, considérait que la police de la République, je le cite, n'a jamais été républicaine. Est-ce que vous pouvez éclairer son point de vue?
On peut comprendre une partie du fonctionnement des polices si on essaie de caractériser qu'est-ce que ça veut dire républicaine, parce qu'une police républicaine, c'est quand même quelque chose qui est pas si simple à aborder avec tout ce que tout un chacun met derrière ce mot république. En revanche, si on met état de droit derrière, par exemple, il est évident que les forces de police ne se conforment à l'état de droit que dans un système où elles y sont relativement contraintes par le pouvoir politique. Puisque d'une certaine façon, le travail de police, il est fondé sur un monopole supposé, qui est celui de la violence, et donc la violence juste qui a la possibilité de tuer. Et donc c'est l'institution qui est en charge des marges du droit, d'une certaine façon, à la fois d'œuvrer aux marges du droit et d'œuvrer envers les populations qui n'ont pas tout à fait des droits ou plus de droits ou pas de droits, les indésirables. C'est, d'une certaine façon, son mandat même. Son rapport à la République, il a cette complexité à la fois de la polysémie du terme République, mais ce qui est sûr, c'est que la police n'est pas l'institution qui est la garante de l'état de droit dont elle a tendance à vouloir s'autonomiser pour aboutir à l'efficacité de ce qui lui est demandé directement par le pouvoir politique. L'autre point extrêmement important, c'est que nous avons aujourd'hui des pouvoirs politiques qui sont peu légitimes, des gouvernants qui sont peu légitimes, tout simplement, parce qu'il y a une distance au parti politique, une distance à l'élection, qui fait que la légitimité des gouvernants est extrêmement faible. Nous avons affaire à des pouvoirs qui singent les pouvoirs forts, c'est-à-dire pouvoir d'exception, rhétorique martiale, verticalité, mais qui sont des pouvoirs faibles. Et un pouvoir faible est dépendant de sa police. Un pouvoir faible politiquement ne peut rien refuser à sa police.
Journal discordant. Maurice Rachfus. Octobre 2000. Pendant le grand pardon, la tuerie continue. Dimanche 1er octobre. Encore 11 morts aujourd'hui à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Nous ne connaissons pas le nombre de blessés. Je plains ceux de mes amis qui persistent toujours à se proclamer sionistes. Comment peut-on être solidaire des oppresseurs d'un peuple qui ne revendique que ses droits les plus élémentaires ? Je crois que je ne remettrai plus jamais les pieds en Israël.
Je me suis trouvé tout naturellement aux côtés des Palestiniens en lutte pour leur indépendance.
Maurice Rachfus.
Et bon, ça a paru extrêmement incongru aux gens de ma tribu d'origine qui ne comprenaient pas qu'il y a un principe qui prime tout, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et non pas l'origine supposée de tel ou tel individu pour prendre position. J'ai été très tardivement en Israël, puisque j'ai été y voir de plus près en 1984. Alors que dès 1948, j'avais été sollicité non seulement pour aller voir, mais pour y rester, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais non seulement anticolonialiste, mais anti-sioniste par héritage. Je me souviens que quand mon père parlait du problème palestinien, il a beaucoup de distance, et un jour un ami lui avait demandé... Si on nous oblige à partir en Palestine, qu'est-ce que tu feras ? Il avait répondu, je demanderai à être ambassadeur en France.
C'est la machine à écrire avec laquelle Maurice a réalisé tout cet tapuscrit, en gros entre 1980 et ses dernières notes en 2020. Il a toujours conservé son Olivetti jusqu'au bout. Le seul souci qu'il y avait, c'était de trouver des rubans. Pour ancrer le papier, quoi, voilà.
Et j'ai pas de haine. J'ai une vie quand même plus intéressante que de m'intéresser à la police 24 heures sur 24. C'est pas dans mes cauchemars.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
Maurice Plocky, dit Rachfus, historien autonome. Avec Ramata Dieng, Marc Plocky, Franck Véron, Jenny Plocky, Ludivine Bantini, Samia Messaoudi et Emmanuel Blanchard. Lecture, Guillaume Potier. Un grand merci à Marc et Michel Plocky, Asiel Kasmi des éditions Premier Matin de Novembre, Frédéric Goldbrun pour son film L'an prochain, La Révolution, Juliette Petit, et Guy Dardel chez Fréquence Paris Pluriel et aux médias en ligne Arrêt sur Image. Toute une vie. Coordination Anaïs Quien, attachée de production Sylvia Favre, prise de son Arthur Gerbeau et Dofar Guéride, mixage Sébastien Royer, Archivina Emmanuel Luccioni. Un documentaire de Clara Menet réalisé par Nathalie Salle.
Toi qui m'as fait aimer. Même la solitude, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.